Et c'était le groupe Abyss et on vous recommande d'aller voir leur clip Fugue qui vous fait voir Rennes sous un autre angle. Et maintenant, on va aller du côté de la poterie où avait lieu le 30 avril une réunion d'information afin de discuter du projet de loi Blanquer dit pour une école de la confiance. Donc cet événement, nommé Nuit des écoles, a rassemblé les parents d'élèves pour un temps d'information, d'échange, de débat sur la transformation du système éducatif. Nous accueillons Arnaud Texier, enseignant et parent d'élèves. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour nos auditeurs, je le rappelle, le projet de loi Blanquer vise à réformer le système éducatif dans son ensemble. Plusieurs mesures sont proposées. Alors, présence du drapeau obligatoire, inclusion des élèves handicapés, abaissement de l'âge pour l'instruction obligatoire, devoir d'exemplarité des professeurs, renforcement du rôle des assistants d'éducation. Donc, beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que c'est pas une loi un peu fourre-tout, au final ?
Ah, c'est complètement une loi fourre-tout, puisque l'objectif final, on le comprend pas très bien. Donc... on mélange plein de choses et on se rend compte que, en tant que parent, mais aussi en tant qu'enseignant, on va pas trop vers où ça nous mène en fait.
Quel était le ressenti après la réunion que vous avez organisée ?
Bah, les parents déjà sont très peu informés parce que c'est un projet de loi qui est pas vraiment passé dans la presse. Donc ils ont besoin d'informations, besoin de comprendre ce qui se passe, ben, quels sont les tenants et les aboutissants de cette loi, parce que c'est très flou encore pour eux.
C'est ça, la critique principale, justement, une loi floue, mal communiquée, ou alors est-ce qu'il y a d'autres critiques qu'on peut lui faire ?
C'est pas que ça. Déjà, il y a un problème de communication, parce que il y a eu, comme vous le disiez à l'instant, une loi fourre-tout, donc il y a plein d'amendements qui n'ont pas de lien avec les uns avec les autres, et c'est une loi quand même qui touche sur le fondement du système éducatif. Donc il y a non seulement un problème de communication, mais en plus il y a un problème de fond sur la refonte du système éducatif français et qui est fort d'enjeu.
Le système éducatif français qu'on appelle le mammouth parce qu'on n'arrive pas à le réformer, est-ce qu'au final c'est pas si mal de vouloir changer les choses dans l'éducation nationale ?
Bah, c'est bien de changer, mais il faut changer pour le mieux. A priori, ce qui est annoncé, c'est l'objectif, même s'il y a des belles phrases autour, on ne voit pas comment ça va améliorer le système. L'objectif du gouvernement, c'est de supprimer 120 000 fonctionnaires en 4 ans. Bon, il y a eu des annonces présidentielles, mais on attend de voir, parce que pour l'instant, on n'y est pas. On voit très bien que le système éducatif reste très inégalitaire, et ce qui est proposé, ça restera encore plus inégalitaire que ça l'est maintenant.
Alors vous parliez justement de la baisse des effectifs, mais justement la loi propose quelque chose, c'est proposer aux élèves de master d'enseigner dans les écoles. Est-ce que c'est pas une bonne chose ça ? Est-ce que ça ne pallierait pas en fait au défaut d'effectifs ?
Alors il y a premièrement une grosse crise de recrutement des enseignants. Alors il faut se poser la question pourquoi ? C'est parce que c'est un métier qui devient de moins en moins attractif. Et après... bien entendu qu'il y ait des étudiants qui puissent venir voir ce qui se passe dans l'école. De là, les mettre en responsabilité face à une classe, c'est autre chose. Il faut avant tout une formation pour être enseignant. C'est un métier qui s'apprend comme tous les métiers. Et on ne peut pas dire qu'en mettant des étudiants master devant une classe, tout se passera bien. C'est plutôt avoir une main-d'œuvre à pas cher. Et donc, pour le coup, les remplaçants pourront être... des gens qui seront précarisés, et c'est ce qui se développe de plus en plus dans la fonction publique.
Quel type de contrat serait proposé aux étudiants de master qui voudraient enseigner devant une classe ?
Après, ils auraient a priori un nombre d'heures à faire pendant leurs études, ce qui déjà les priverait de certains cours, parce que les heures de classe sont fixes, donc je ne sais pas comment ça peut être conciliable d'être face à une classe et aussi de suivre un cursus universitaire. Donc, là encore, c'est très flou. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a sans doute des étudiants qui se dirigeront vers là, parce que même si c'est peu d'argent, ça sera toujours quelque chose qui pourra leur permettre de suivre leurs études. Ça sera assez chaotique, puisque suivre des études et en même temps travailler, parce que c'est quand même un métier qui se prépare, même avoir une classe une journée par semaine, ça se prépare. Donc je ne sais pas comment ça pourrait être conciliable, en plus quand on n'est pas formé, parce que le pendant de la formation, là, on ne le connaît pas.
Est-ce qu'au final, ça ne permettrait pas... parce que je suppose qu'un élève de master qui voudrait justement avoir ce genre de contrat, c'est un élève qui se prédestine justement à devenir professeur. Est-ce que justement, ce n'est pas une bonne école d'aller enseigner aux enfants, même sans le diplôme ?
Alors, encore une fois, c'est un métier qui s'apprend. Donc, jeter quelqu'un dans l'arène comme ça... Oui, après, on voit déjà les dégâts que ça a pu faire, parce que entre les formations initiales, donc pour les professeurs des écoles stagiaires qui existent maintenant et celles d'il y a 15 ans, rien que 15 ans, là déjà les professeurs des écoles stagiaires sont en classe à mi-temps, mais ils n'ont jamais eu de formation didactique, pédagogique, Et c'est souvent très douloureux. Il y a des bilans de fait à la fin d'une année. Les néo-titulaires sont désarmés face à la vie d'une classe, face à tout ce qu'il y a à apprendre, tout ce qui est séquence d'apprentissage, etc. Donc, oui, sur le papier, ça peut être intéressant. Je suis pas sûr que dans le fond, ça laisse forcément encore une envie ou une attractivité au métier. Ça peut être décourageant.
Vous avez peur que ça dévalorise le métier d'enseignant ?
C'est pas que ça dévalorise, c'est-à-dire que ça va être des jeunes qui vont se retrouver face à une classe sans formation, ils vont se poser des questions sur ce qu'est le métier, alors que s'ils avaient passé un concours, s'ils avaient pris le temps de prendre des séquences et de les analyser, le temps de s'immerger face à ce métier, parce que c'est pas un métier simple, je pense que ça aurait été beaucoup plus simple. Là, je pense pas que, in fine, ça amène beaucoup plus de gens vers la carrière d'enseignant.
Alors d'autres personnes aussi qui ont été un petit peu perplexes face à ce texte, c'est le Sénat qui l'a renvoyé du coup à l'Assemblée nationale pour être révisé. Donc du coup Jean-Michel Blanquer a déclaré « Il est certain que le texte peut évoluer et il y gagnera ». Donc selon vous, est-ce qu'on peut le faire évoluer dans le bon sens ce texte ?
Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une mesure phare, c'était la création des établissements publics locaux d'enseignement des savoirs fondamentaux. Et qui a été décrié par l'ensemble de la communauté éducative, les parents, l'ensemble des organisations syndicales, il y a aussi les maires ruraux de France, donc tout le monde était vent debout contre cette réforme, parce qu'on ne voyait pas où ça amenait, quel était l'objectif. L'objectif qui n'est pas vraiment caché, parce que c'est des choses reprises par la Cour des comptes, c'est l'optimisation des moyens, la rationalisation, c'est jamais l'élève qui est au centre de la réforme. Donc ce sujet-là était hautement politique, donc là il est évacué par le Sénat puisque le Sénat aimerait le supprimer, si ce n'est que derrière il y a des propositions qui sont notamment la création d'un statut des directeurs, alors qu'on n'a jamais vu ça en France. L'école primaire se passe bien sans supérieur hiérarchique et elle fonctionne. Ce dont l'école a besoin, c'est des moyens pour avoir moins d'élèves par classe, et des enseignants formés. Donc c'est pas en mettant un supérieur hiérarchique dans une école, bien qu'on puisse croire sur une illusion comme celle-là, que le système marchera mieux.
Le but aussi de cette démarche, c'est de créer plus d'unité entre l'école primaire et le collège. Est-ce que vous n'y croyez pas du coup ? Vous ne pensez pas que créer un groupe scolaire va aller vers cette unité ?
L'unité, il faut savoir ce qu'on entend par unité. C'est-à-dire que le système du premier degré est très particulier. C'est un enseignant avec une classe toute la journée. Le système du secondaire, c'est un élève avec plusieurs profs. C'est deux systèmes qui, maintenant, de toute façon, dans les programmes, se rapprochent, puisque le cycle 3 va jusqu'à la 6e. Mais encore, pour travailler avec les partenaires des deux systèmes, il faut du temps. Et du temps, il n'y en a pas. Il n'y a déjà pas assez de temps pour que les collègues du premier degré, c'est-à-dire les enseignants du premier degré, se voient. Et on est vraiment avec deux cultures différentes, il faut qu'elles se rencontrent, c'est sûr. Mais il faut du temps, il faut aussi qu'il y ait des modalités, qu'il y ait un échange mutuel qui soit efficace. Et là, il n'y a pas de proposition, c'est fait, mais sans modalité, c'est la petite semaine, quoi.
Mais sans cette réforme, est-ce qu'on peut continuer avec le système éducatif actuel ? Est-ce qu'on peut quand même rester sur ce qu'on a maintenant aujourd'hui ?
Ah non, il faut le transformer, c'est sûr. Après, il faut le transformer pour qu'il soit plus juste et qu'il donne l'accès à tous les stades de l'enseignement, à tous les élèves, en fonction de leur capacité, bien entendu. Mais ce qu'on voit déjà dans cette réforme, c'est qu'on va créer, dès le primaire, des établissements publics élitistes, les EPEI, qui sont des établissements qui vont trier sur le volet des élèves qui seront déjà qui auront déjà la maîtrise de l'anglais, et on va créer comme ça se passe déjà en Alsace des écoles préparatoires, c'est-à-dire qu'on va être sur du tri social, et on sait très bien que ça sera un tri social à la fin du cursus.
On est sûr, en ce moment dans l'actualité on parle beaucoup de la suppression de l'ENA, est-ce qu'au final on n'est pas en train d'en créer plein de petites justement?
Le système, il ne devient pas plus égalitaire. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de choses à annoncer. Après, l'évaluation, il n'y en a jamais. Et puis, il y a des mots, mais après, pour que ce soit égalitaire, il faut qu'il y ait des enseignants formés devant les élèves. Et ce n'est pas avec 30 élèves qu'on peut réussir à aider. Il y a plein de bonne volonté, mais sans être formé, en ayant des effectifs très lourds, on n'aidera pas forcément chaque élève et puis à la hauteur de leurs besoins. Et c'est ça le problème. Les élèves qui socialement se débrouillent bien, ils se débrouilleront encore mieux.
Mais est-ce que vous comprenez quand on vous dit qu'on ne peut pas injecter plus d'argent dans le corps enseignant?
C'est un choix. Ça, c'est un choix politique. Je veux dire, une société, elle fait des choix. Un président fait des choix et donc c'est au président et puis au gouvernement d'assumer les choix qu'il fait. Mais c'est pas... on a vu dernièrement dans les mouvements sociaux, on veut plus de services publics. Et ça, c'est le peuple qui le demande. C'est pas un enseignant lambda. On veut plus de services publics et de la qualité dans le service public. Et là, en l'occurrence, on est plutôt en train de voir qu'on est en train d'essayer de dégrader le service public pour faire un service public à deux vitesses.
Et du coup, si la loi Blanquer finit par passer, même modifiée, quel sera l'impact sur Rennes?
Sur Rennes et partout, mais sur Rennes, quand on aura des fonctionnements d'école où... alors si on prend le projet initial, il y avait comme ces établissements publics locaux là, ça voudrait dire que si c'était revoté donc à l'Assemblée nationale ou si c'était remanié, c'était quand même des établissements qui mettaient des réseaux d'école avec des supérieurs hiérarchiques au collège. Et on ne voit pas trop l'intérêt, puisqu'il y aurait eu quelqu'un qui aurait pu décider avec un conseil d'administration du fonctionnement des écoles sur un réseau. Donc un collège avec quelques écoles afférentes, 5 ou 6 ou 10. Et Rennes, l'impact pourrait être moindre. Dans le milieu rural, on sait très bien que ça pourrait induire des fusions d'écoles, des fermetures d'écoles. Donc voilà, les annonces présidentielles, c'était aussi pour éteindre le feu. Mais le fond du sujet, c'est ça, on veut réduire les moyens.
Et ces écoles rurales seraient là justement pour lutter contre la désertification de la population. Est-ce que vous comprenez aussi cet argument?
Alors là, les établissements, il n'y aura pas de... À partir du moment où il y a des fermetures d'écoles, on ne lutte pas contre la désertification. Au contraire, on la favorise, on fait des pôles à certains endroits et à différentes vitesses. Puisque ces établissements, théoriquement, seraient à l'initiative des collectivités. Et même dans l'évolution du texte, il y aurait pu avoir une école dans un réseau qui n'aurait pas fait partie de ce réseau. Donc on voit quelque chose qui est complètement fourre-tout, qui est complètement désorganisé. Et je ne vois pas comment ça va améliorer le travail face à un élève. C'est purement technique, mais aussi politique. Le fait d'avoir un chef, c'est important pour certains hommes politiques. Alors que l'école primaire fonctionne bien, elle n'a pas besoin d'avoir de chef.
Et j'ai vu aussi partout en France, il y a des parents, des professeurs qui se mobilisent pour contrer ce projet de loi. Donc des actions écoles mortes prennent place pour bloquer les établissements scolaires. Est-ce que vous comptez faire ce même type d'action sur Rennes prochainement?
Alors après, c'est les parents qui décident de faire école morte, parce que le principe de l'école morte, c'est on ne met pas nos enfants à l'école. Alors à mon avis, ce qui serait pour que ça soit efficace, il faudrait que tous les parents le décident. Il y avait le 10 mai qui était annoncé. Je suis pas sûr qu'à Rennes c'est un grand impact, parce que justement les parents ne sont pas en courant de ce qu'est cette réforme. Donc le travail, je pense qu'il y a à faire encore, c'est informer et c'est d'expliciter ce qu'est la réforme. Parce que encore de beaux objectifs, mais au final je pense que c'est une dégradation du service public.
Et de nouvelles réunions vont avoir lieu?
Alors demain, il y a déjà eu la première nuit des écoles a eu lieu le 30 mars, il y en a eu le 30 avril, il y en a eu deux, et ça monte en puissance demain puisqu'il y en a quatre. Il y en a une à Saint-Brice-en-Cogle, il y en a trois à Suresnes, une à l'école Liberté, une à l'école Tréguin et une à l'école de Villeneuve. Donc les parents commencent à s'inquiéter, c'est-à-dire que les parents commencent à se poser les questions à l'heure où le texte va passer au Sénat. Ça montre bien qu'ils ont été très peu informés sur le sujet.
Il faut continuer à les informer. Merci beaucoup Arnaud Texier. Le projet de loi pour une école de la confiance examine dans l'hémicycle du 14 au 21 mai. On va écouter maintenant le groupe Pink Floyd, ça c'est Another Brick in the Wall.